Cet évangile nous remet encore au cœur de notre vie de prière. Et remarquons d'abord que le Seigneur s'y montre pour nous tous très optimiste, parce que par les cris de la plaignante sans fin, ces cris sont enfin récompensés. Alors est-ce que c'est notre expérience personnelle? Eh bien, on pourrait distinguer trois questions. La demande, l'exaucement, et le sens. Notre vie se passe dans des demandes habituelles, du matin au soir. La santé, le travail, la sécurité. Et quand la maladie oblige des soins spéciaux, c'est l'hôpital. J'entends les cris d'une personne qui appelle au secours, sans qu'on lui réponde. La vie en ce monde, pour la majorité des gens, est une lutte quotidienne, et personne en fait n'y échappe. Même pas les plus nantis qui ont d'autres problèmes. Telle est notre condition, à nous tous. Depuis notre exil de l'Éden, nous sommes sous le coup d'une sanction du péché d'origine et nous sommes pauvres. Nous avons besoin. Nous avons besoin de Dieu. Même sans le péché, nous aurions eu besoin de cette constante présence du Seigneur, mais dans une autre situation, pour atteindre la fin bienheureuse dans l'union à Dieu, puisque c'est le sujet que nous avons, que nous méditons, de connaître les moyens pour atteindre cette fin. Eh bien, constater notre indigence en tout est une chose évidente. La question est de savoir, avec la veuve de l'Évangile, comment pourrons-nous surmonter toutes ces difficultés inhérentes à notre condition pécheresse. La veuve a recours à la justice de ce monde, constate que ses cris sont perdus dans l'indifférence, et même le mépris du juge qui devrait lui donner raison, et c'est bien vrai pour certaines personnes que j'écoute en ce monde. Que faire d'autre, sinon de multiplier sans relâche des appels au secours? La question est-elle qu'elle ne sort pas du système du péché dans lequel toute la société est enfermée? Monsieur de La Fontaine a très bien décrit tous les animaux contaminés par la peste, par l'injustice qui avantage les puissants, laisse les pauvres dans leur misère, selon que vous serez puissant ou misérable. Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Rien d'étonné donc que la veuve frappe sans obtenir de réponse. Exaucement maintenant. Eh bien, c'est la question importante, dont la réponse n'est pas en notre pouvoir. C'est le juge qui a le pouvoir pour cette pauvre femme. Qu'en est-il à nous du croyant ? Nous ne sommes pas tout à fait dans la même situation où l'exaucement de notre prière dépend non pas d'un juge unique, mais d'une réponse que notre Dieu tout aimant, miséricordieux, voudra bien apporter. La différence entre les deux situations, c'est que nous sommes sûrs que Dieu est impartial. Est-ce que ça suffit pour avoir la conscience d'être exaucé? J'entends les cris encore d'une autre personne sur son lit d'hôpital qui réclame un verre d'eau et qui n'arrive pas, malgré les appels incessants, parce que le personnel est dépassé, il doit courir partout. Même cri d'inquiétude pour l'avenir des soins. Et voici que les éternelles questions arrivent. Mais que fait donc Dieu pour moi? Pourquoi ne m'entendit pas? Et ce sentiment d'injustice incompréhensible, pourquoi tous les cris de joie et d'action de grâce dans ces assemblées de prières, avec des guérisons diverses, alors que moi, là, je passe mon temps à prier avec autant de ferveur et que je ne reçois aucune récompense, aucune réponse. Pourquoi le silence de Dieu? Dans ce creuset, y a-t-il une réponse pour notre logique humaine? Dans l'Ancien Testament, Job s'entendait dire que c'est parce qu'il avait péché et que Dieu le punissait par la souffrance. Contre cette idée utile et de la tradition, Job s'est élevé pour disculper Dieu. Il s'insurgea. Il acceptait la souffrance. Alors qu'on lui demandait de maudire Dieu, il n'en fit rien. Il accepta la volonté de Dieu. Alors, la souffrance, disait-elle pas, ne reste-t-elle pas le plus grand scandale de la condition humaine? Et pourtant, malgré le silence, Jésus, ici, dans l'Évangile, est optimiste. puisqu'il annonce que finalement, à cause de la persévérance, la pauvre veuve obtiendra finalement l'exaucement de sa requête. La question me revient personnellement, je l'ai déjà médité avec vous. Répondre non, que en fait il n'y a pas d'exaucement, ce qui a apparemment ce que beaucoup vivent quand la souffrance est là et qu'elle continue malgré toutes les prières et que inéluctablement même ça s'en va vers la mort. Répondre non serait un affront au Seigneur. Il a veillé toute ma vie sur mes pas. Même si je n'en avais pas été conscient. Et ma foi aujourd'hui, en sa bonté, me conduit à penser que ma vie de prière a connu des exaucements. Pour d'autres, pour moi, je fais donc un acte de foi. Et je ne peux, même si je ne peux pas me rappeler toutes les interventions du Seigneur, puis-je faire le même raisonnement pour cet ami qui souffre terriblement, et je pense par exemple à Brigitte, ou bien encore à notre ami José, pour cette souffrance qui gémit, pour cette personne qui gémit dans sa souffrance, bien sûr, ce qui importe pour elle, c'est d'être soulagée. Malheureusement, elle ne voit pas venir l'aide de Dieu. Et j'écoute ses cris. Et elle me dit, mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est pourquoi que le Seigneur Jésus lui-même a dit, au cœur même de sa souffrance et de son agonie, « Père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Alors me voici devant, d'un côté, le mystère du silence de Dieu, et de l'autre, des interventions miraculeuses dont parlent beaucoup d'autres gens, certaines communautés, certains mouvements de prière. Là, des réponses positives du ciel, et là, le silence. Alors, qu'est-ce que la prière ? Et devant le silence, c'est l'écrivain juif Néer, dont j'ai gardé ce qu'il dit de la Shoah dans son livre. Néer, donc, un écrivain juif. Il parle de l'extermination de ces millions de morts de juifs déportés. Et à un moment donné, il décrit une scène terrible où un juif est sur le point de mourir. Il hurle devant un ciel apparemment fermé. Et il crie. Toi, Dieu, il faudrait que tu viennes ici et que tu meures, que tu comprennes enfin ce que c'est que ma souffrance humaine. Et cette souffrance et cette parole, cette pensée dirige Néer devant le mystère du Vendredi Saint. Il est là, le Dieu qui crie. Il est là la réponse. Et pourtant, il n'en tient pas compte, dans sa vocation peut-être de juif. Il glisse, il voit très bien le Vendredi Saint, mais il n'y apporte pas d'importance, il glisse. Et pourtant, le fait est bien là. C'est le Père qui est là dans son Fils, dans ce cri, dans cette mort. Alors, Quelle sera la question de la foi dans ce cas-là? Éloi Leclerc, notre frère franciscain qui est mort il y a quelques années, a rappelé plusieurs fois l'atroce événement de la déportation qu'il a vécu dans le train des déportés pour Dachau. Après un voyage effectué dans des conditions atroces, de 5000 hommes au départ de la gare de Weimar, il n'était plus que 1200 après 20 jours d'enfer. Il vécut une expérience atroce. Et il l'a décrit, cette expérience, dans son livre, plusieurs fois d'ailleurs. « Là où le Père est absent, dit-il, le Fils entre en agonie. » L'agonie du Fils est le silence du Père. L'absence du Père. Nous comprenons cette parole de Jésus. « Mon âme est triste à mourir. » Il fait nuit dans notre âme. Ils étaient partis à cinq franciscains. Et l'un d'eux se trouve maintenant à la dernière extrémité. Et le plus extraordinaire, c'est comment même de l'extermination définitive, alors qu'un diable de SS se dresse devant eux, avec un fusil mitrailleur pour les détruire tous, s'élève à ce moment-ci un chant. Ces quatre franciscains, et avec ce dernier frère qui était dans l'agonie, en train de mourir, montent dans cette nuit épouvantable le cri, le cantique du soleil de saint François d'Assise. Ce chant jaillit spontanément dans notre nuit, dit-il, et de notre dénuement, comme le seul langage à la mesure de l'événement. Expérience indépassable. Il faut avoir en soi du chaos pour enfanter une étoile dansante, disait Nietzsche. L'histoire est passée sur nos vies comme un cyclone. Et voici que sur cet amoncellement de ruines brille la grande étoile du soir de la pauvreté intégrale. C'est toujours dans l'ombre de la crucifixion, au bout du voyage, que le chrétien retrouve le regard de l'enfant. Il exprime une immense volonté de paix, de miséricorde, au cœur même de la dévastation et de la mort. Malgré la puissance apparente du mal, c'est lui qui est le plus fort. Il est capable de tenir en échec la plus monstrueuse entreprise de barbarie. Dans l'histoire en fureux, ce regard exprime déjà le mot de la fin, et ce n'est même pas assez de le dire. Il le chante. Éloi Leclerc finit en disant « Le soir, nous sortîmes son corps sous les coups de l'SS, qui trouvait que nous n'allions pas assez vite. Ce fut le dernier mort de notre wagon. » Révélation extraordinaire. Au cœur même de la détresse, au cœur même de tout ce qui est silence. Conscient de l'amour de Dieu pour les hommes, Jésus n'a pas hésité. Pour attester cette vérité, alors qu'il meurt en criant « Père », il meurt dans la foi comme Job l'a fait. Il n'a pas hésité à s'engager dans le sombre chemin de la dire élection pour rejoindre notre humanité, blessée, cassée, meurtrie. Il n'a pas dédaigné de prendre en lui de vivre la nuit de l'absence, la splendeur de l'amour qui entre en agonie. Par cette démarche, le silence de Dieu est devenu le lieu privilégié de sa révélation. Alors quand j'entendrai crier «